berger oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous convaincre au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de maîtrise des vents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. L'examen d'État a 50 ans en RDC. C'est en 1976 que le gouvernement congolais avait lancé cette innovation pour harmoniser le programme scolaire de l'époque disparate. Car à cette époque, selon le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, chaque réseau d'enseignement secondaire avait ses propres critères d'évaluation, ce qui n'arrangeait pas les choses. Certains observateurs estiment que la célébration du cinquantenaire de l'examen d'État, édition 2015-2016, qui s'est déroulée il y a quelques semaines, relance le débat sur les avancées qualitatives du processus des réformes du secteur de l'enseignement en RDC. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour intervenir en direct. Sylvain Matundu est à la mise en onde de ces magazines réalisés, coordonnés par J.R. Lungembo et Pierrot et Lamégie. Vous les présente sous la supervision de Martin Seboujang. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiocafi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Lamé.
L'examen d'État a fait un long chemin en République démocratique du Congo. C'était en juin 1967 que la première édition des épreuves de l'examen d'État a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. À cette première session, rappelons que 3237 candidats ont été bel et bien inscrits et seulement 2272 finalistes ont décroché leur diplôme d'État, soit 70% des réussites. Il n'a pas toujours été posé sous la forme actuelle, cela veut dire beaucoup de choses ont été apportées comme modifications jusqu'à cette 50e édition de cette année. Alors, nous faisons la rétrospective pour voir toutes les innovations et l'amélioration qualitative que plusieurs personnes estiment que le secteur de l'enseignement a besoin chaque fois d'une remise en cause et d'un débat autour de ses contenus, autour du programme, de ce qui doit se faire ainsi que de la réforme. C'est au centre de notre échange dans ces magazines Parole aux auditeurs. Kevin, vous nous appelez de Mandakia, dans la province de l'Équateur. Bonjour Kevin et bienvenue dans cet échange.
Merci Joris, merci à tous les auditeurs de la radio Capi, je le salue tous.
Et pour vous, quelles ont été les failles qui ont émaillé, selon votre période de conscience, les cheminements de l'examen d'État, et aussi nous allons regarder dans l'avenir pour proposer des pistes de solutions pour améliorer.
J'aimerais dire que les réformes intervenues en 1967 a bien évidemment fait quelque chose par rapport aux critères d'évaluation. Parce que si chaque sphère éducationnelle devrait organiser les examens de sa manière, ça posait déjà un problème comme vous l'aviez publié sur votre page Facebook. Mais moi je pense que le problème aujourd'hui ne se trouve pas au niveau des critères d'évaluation, surtout s'agissant de matières à traiter ou de matières soumises à l'examen, étant donné que ce sont beaucoup plus des matières qui sont reprises au programme national, qui est à la disposition de tous les élèves, et ce sont ces mêmes matières-là qu'on reprend au niveau du système et ainsi de suite. Mais au niveau de la forme, c'est-à-dire la manière dont on présente ces examens, c'est là où je trouve un problème. Surtout le problème des choix multiples. Là, vraiment, ça m'effraie, étant donné que on ne sait plus qui écrit quoi. C'est-à-dire que lorsque déjà, dans le programme, dans les items, on prévoit les questionnaires avec les réponses que les candidats doivent choisir, ça pose déjà un problème. On a un problème de dictée. Les élèves ne savent plus très bien écrire, ils ne maîtrisent plus l'orthographe, la grammaire, ainsi de suite. C'est une sorte de faciliter la tâche aux élèves. Alors, Exactement, lorsqu'il va se retrouver devant la bonne réponse, il n'a qu'à coucher, mais il n'essaie pas vraiment à coucher la réponse de sa manière. C'est comme s'il fait une citation à la réponse, même s'il n'avait pas l'idée. Alors, il va essayer de faire des choix, mais c'est comme on appelle des fico-fico-fio, et donc, ça pose déjà un problème dans la formation des élèves. Mais le grand problème aussi, c'est au niveau du traitement des enseignants. Parce que le programme est posé de telle sorte que ça facilite la tâche à l'élève quand il est devant une épreuve de bien l'affronter. Mais lorsqu'un enseignant est mal payé, lorsqu'un enseignant est maltraité, il n'y a plus de motivation, il ne saura plus terminer le programme national. C'est ce qui pose aussi problème alors. Le mauvais traitement de l'enseignant implique maintenant une absence de motivation de, l'absence de la part de l'enseignant. Il ne saura plus bien lire, bien revoir ses notes, il ne saura plus bien donner les matières à des sortes qu'il puisse terminer le programme national. Et ça, comme autre conséquence, les programmes n'arrivent pas à sa fin, étant donné que les enseignants sont obligés maintenant d'aller enseigner dans plusieurs écoles pour essayer de remplir leurs bourses. Ça, c'est la conséquence des mauvais traitements. Je crois qu'au niveau vraiment des critères d'évaluation, il ne se pose pas de problème. Et peut-être au niveau de la forme, parce qu'au niveau de la matière, on comprend déjà qu'il y a quelque chose, mais le problème se pose au niveau du programme. Le programme, vu que le programme n'arrive pas à sa fin, c'est vraiment un grand problème. Donc.
Merci Kevin. Vous estimez que le problème, celle qui s'est, vous le posez vous, c'est en termes de la forme de la présentation de l'examen. Vous ne souhaitez pas le système des choix, mais si vous auriez aimé que l'élève puisse démontrer sa capacité, sa réflexion dans les réponses qu'il doit donner à l'examen, plutôt qu'il le laisser choisir au choix multiple, quand même il peut tomber sur une bonne réponse par hasard, sans pouvoir aller plus loin et démontrer cela. Mais au-delà de tout, vous estimez qu'il impacte aussi dans le résultat qu'on doit avoir, doit passer par les conditions de travail de l'enseignant. Merci beaucoup, Kevin. Joël, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Joël.
Bonjour, Radio Capier. Merci de m'associer à cette émission.
Quelles ont été pour vous les faiblesses 50 ans durant du déroulement de l'examen d'État, mais aussi les points positifs qui peuvent être renforcés pour continuer dans les sens positifs de la réforme du secteur?
Moi, à mon humble avis, j'estime que l'examen d'État a perdu l'essence qu'il avait en 1967 et il est devenu une simple formalité qui fait perdre au diplôme d'État toute sa valeur et ne sert plus aujourd'hui qu'à ouvrir l'accès aux études supérieures. Pour soutenir ce que j'ai dit, il suffit seulement de voir les agissements des diplômés d'État dans la rue et considérer leur irresponsabilité pour ne pas réfuter ma thèse. D'où la réforme s'impose et il faut refaire car la qualité de l'enseignement a sensiblement baissé et le niveau des lauréats est trop bas. Je l'ai dit à ma honte parce que ça me concerne aussi. Le gouvernement doit beaucoup s'investir dans ce secteur, pas en réhabilitant seulement les écoles, mais bien plus en relevant le niveau de l'enseignement, notamment par le recyclage des enseignants, en renforçant la surveillance aux examens d'État, en écartant la complaisance dans la correction des items, en luttant efficacement contre la corruption devenue aujourd'hui monnaie courante entre promoteurs d'écoles, préfets et inspecteurs de l'enseignement. Je dénonce par la même occasion et je condamne la commercialisation de l'examen d'État et le monnayage des résultats qui se font en chaîne. Il faut que ça s'arrête si réellement on a la volonté de former et instruire la jeunesse dans ce pays. J'ai dit et je vous remercie.
Merci Joël. Vous estimez qu'il y a beaucoup de failles qui ont émaillé le déroulement de l'examen d'État, surtout en cette période par rapport aux années passées à l'instauration. Vous estimez que ça a perdu de la valeur, c'est devenu plus une formalité. Et là, vous avez évoqué le problème de corruption, la surveillance, la faiblesse de niveau des enseignants. Mais vous estimez que toutes ces questions doivent être abordées d'une manière à ce que ce ne soit plus une formalité, mais que le diplôme vraiment ait son sens. Merci beaucoup, Joël Félicien. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et pour vous, à quel niveau se trouvent les faiblesses dans le déroulement de l'examen d'État 50 ans après, vous avez eu le temps de voir et de traverser toutes ces générations.
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que l'examen d'État a été une bonne initiative de la part du gouvernement congolais. Et ça a aidé à faire l'équivalence avec les bacs dans d'autres pays. Et je crois que les premières années, ça a bien marché, ça a été une bonne chose. Et ça n'a pas vraiment posé de problème. comme l'a dit un de mes prédécesseurs, le problème dans ce pays, c'est le problème de l'enseignement. C'est vraiment pas l'examen d'État. Et des fois, ils sont du côté de la formation et qui n'est pas à la hauteur de ce que ça a été vers les années 60-70. Parce que vous savez, moi, j'ai fait le CO, donc le cycle d'orientation. Tout ce que j'avais comme professeur au cycle d'orientation était de D6. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'ils étaient de D6. Ils étaient compétents et à la hauteur de leurs tâches. Et ils nous ont enseigné, ils nous ont donné une formation alors qu'ils étaient de D6. Et moi-même, quand j'ai terminé mes cycles secondaires en 77, on s'est disputé avec, je veux dire, il y a les missionnaires qui se disputaient pour que j'y sois, soit directeur de l'école primaire, soit professeur des cycles d'orientation chez les religieuses. J'étais que des fils, mais on m'a disputé et tout ça. Alors, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver un D6 qui puisse assumer des responsabilités ou qui puisse donner cours même à l'école primaire. C'est une catastrophe. Donc, le problème, c'est tout au niveau de la formation d'abord. Parce que les enseignants étaient non motivés. Beaucoup, on a perdu beaucoup de ce côté-là, dans la motivation, dans l'encadrement des enseignants et des élèves eux-mêmes. Et puis, quand vous venez aux examens d'État, à notre époque, et en tant qu'on a touché à l'examen d'État, c'était de l'aide majesté. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous voyez les enfants levés qui sont en train de travailler sur les questionnaires qu'ils ont eu je ne sais pas où, et quand ils arrivent à l'examen, oui, c'est les mêmes questionnaires, mais chez nous, ça n'existait pas. À l'époque, Marcos a même en 60, non, c'était 76, a annulé l'examen d'État pour toute la province de Bandundu. Et il y a eu que des échecs partout de Nil, là, dans toutes les écoles, parce qu'il y avait le bruit de tricherie. Mais est-ce que c'était prouvé qu'il y avait tricherie? On ne sait pas. Mais maintenant, il y a tricherie au vie aussi de tout le monde, et on laisse faire. Et après, vous avez d'abord la formation qui n'a pas marché, et l'encadrement qui n'a pas marché avec les enseignants, et puis quand on arrive à l'examen d'État, et il y a la tricherie, et on laisse faire, et tout comme ça, ce qui compte, c'est l'argent. Quand on donne l'argent, les préfets vont récolter de l'argent pour l'examen d'État, et pour aller faire quoi avec, aller donner à qui. Alors qu'à notre époque, on n'avait même pas tout ça, des cotisations de l'argent, pour l'examen d'État, et tout ça. Et c'est ça les failles. Il y a quelque chose qui se passe et on laisse faire.
Si vous avez parlé de l'enfant, quand on sait que l'enfant, quand il vient, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, il vient, il a une technique, il doit apprendre. Et est-ce que la faille aujourd'hui, je vois cette discussion qui était très animée sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, mais aussi sur l'Internet avec beaucoup d'autres internautes qui estiment, les gens estiment que le problème, c'est pas l'enfant, mais le problème aujourd'hui, c'est celui qui encadre l'enfant. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de l'enseignant lui-même, peut-être qui vient de l'ISP, on voit aujourd'hui les ISP se sont plutôt transformés en d'autres institutions, en université, ils ont ajouté autant d'autres domaines. Quand on regarde ceux qui vont encore chercher la filière de l'enseignement, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, ceux qui vont pour aujourd'hui la maths physique, la biochimie, ils sont rares à l'ISP. Est-ce que le problème n'est pas aussi à ces niveaux-là aujourd'hui? Parce que l'enfant, lui, il est considéré être quelqu'un qui n'a rien à la tête, il faut que l'enseignant lui donne. Est-ce que le problème, c'est l'enfant ou le problème, c'est l'enseignant aujourd'hui, Félicien?
Oui, mais les deux, Pierrot, parce que l'enseignant lui-même, qui est formé aujourd'hui, il vient d'abord de l'école primaire, d'aujourd'hui, il vient de l'école secondaire d'aujourd'hui, et il vient de l'université d'aujourd'hui. Mais qui représente ces institutions aujourd'hui? Ce sont des antisalaires. des gens qui passent des classes sans les mériter et qui terminent aussi l'université sans les mériter et qui viennent travailler et pour transmettre quoi. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avions, nous à cette époque-là, des professeurs qui nous donnaient cours à l'école, comment j'ai dit aussi, que d'orientation, qui étaient des D6. Mais vous ne pouviez pas vous imaginer que c'était un D6. Et ils ont donné une formation solide. Et ceux qui m'entendent, et ça, c'est ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, un D6 était capable de faire autant. Mais ce D6-là va aller à l'université, et il va terminer aussi l'université, dans les mêmes conditions. Donc, il est toujours nul, mais il a le diplôme d'université, il est licencié, comme moi, comme toi. Et alors, on ne comprend pas comment ça se passe. Donc, il y a un problème d'antivaleur, et c'est là que le ministère de l'Enseignement devrait faire un effort pour voir d'où vient la paille. Mais en plus, la motivation de ceux qui doivent enseigner, ceux qui doivent encadrer, pour qu'ils ne laissent pas faire n'importe quoi, qu'ils ne laissent pas passer des antivaleurs, qu'ils ne laissent pas passer des élèves médiocres. Alors aujourd'hui, le grand nombre d'élèves à l'école secondaire se dit que j'étudie pas, je vais passer. Parce que on passe avec l'argent, on ne passe pas avec la tête.
Merci Philippe. Merci Philippe. Vous estimez que le problème des on dit que la question est transversale parce qu'elle touche à l'enseignement supérieur, à l'enseignement primaire et secondaire, mais dans tout ça, il y a les maîtres mots, les mots-clés. Vous avez parlé des antivaleurs qu'il faudrait au niveau du ministère, ce que vous avez souhaité, que chacun s'y penche. C'est une question qui touche à l'ensemble du secteur de la société. Merci beaucoup, Félicien Maître. Serge, vous êtes à Kamina et nous allons revenir ici dans ce studio en ligne à Kinshasa avec notre invité. Maître Serge, bonjour. Maître Serge, vous êtes à Kamina, oui. Et on vous écoute, Maître Serge.
Oui, moi, j'ai vraiment salué les réformes là-bas. Puisque j'ai dit là, il fallait attendre peut-être au mois de janvier qu'on proclame le résultat. Et là, pour le moment, ça va un peu plus vite. Et de près vers la fin du mois, tout le monde connaît déjà là où il va s'orienter, il peut reprendre ou il peut mais néanmoins, ce que je veux condamner, c'est quoi? Il fallait que les centres de correction soient au stade des programmes. Et même la composition, c'est fait toujours au niveau des Kinshasa. Depuis que je suis secrétaire, je n'ai jamais vu ce qu'elle compte l'Oriana des autres provinces. C'est toujours à Kinshasa. Je ne sais pas à quoi il dit tout cela. Et pour penser seulement les niveaux aussi de l'enseignement, dans les sujets éducatifs, c'est quoi? Il faut rémunérer surtout l'enseignant, l'encadrer là. Vous savez, si on donnait seulement 300, 450 dollars à un enseignant, vous verrez que vous n'allez même pas vous poser encore des questions comme il y a baisse de niveau ou quoi. Non. Le problème, c'est quoi? Il y a les écarts dans les salaires. Hein? On connaît un peu cette opportunité-là d'échanger vraiment, voir ceux-là qui encadrent les autres. On puisse penser aussi à ceux-là qui encadrent les enfants là. Puisque on parle aujourd'hui de Big Adolf. Il y en a, j'avais suivi l'émission là, il y en a qui se jetaient des éloges, il y en a qui se jetaient des pieds et disent non, vous savez, c'est l'université, je ne connais pas encadré, et disent que non, c'est l'école secondaire, ils disent non, c'est l'école primaire. Vous savez, dans tout cela, moi j'avais déchiffré quoi? La non-motivation. C'est ça la principale caractéristique dans un groupe ou dans une société. Il faut motiver l'enseignant. Qu'on ose seulement de donner 300-450 dollars à un enseignant, vous verrez que les enfants vont étudier dans de bonnes conditions et il y aura hausse des niveaux là-dessus.
Merci Maître Serge, vous êtes à Kamina, vous avez estimé que pourquoi la correction, la composition c'est toujours à Kinshasa, la correction à Kinshasa, pourquoi n'est pas décentralisée et la composition et la correction de l'examen d'État et cette question de lauréat à Kinshasa, pourquoi c'est le mot à Kinshasa, mais vous avez chuté en estimant que l'amélioration des conditions de travail des enseignants peut arriver à clore tous ces débats autour du niveau, de la hausse et l'amélioration du niveau, tout est lié à ça. Nous avons écouté tout à l'heure notre invité, mais la page, comme je le disais tout à l'heure, le débat est aussi très animé sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Charles Mabousse de Kinshasa estime qu'il ne faut pas croire que la réforme va se résumer à la distribution des manuels scolaires ou à la copie avec les de la méthodologie étrangère. La réforme de l'enseignement doit d'abord passer par la motivation des enseignants. Il faut un bon salaire et de bonnes conditions de travail. Elie Monebi, qui nous a écrit des Mbandaka, l'avancée en RDC n'est pas au niveau est resté plus quantitatif qualitatif. On voit beaucoup de finalistes, beaucoup de manuels, beaucoup d'écoles qui se créent, mais au niveau de la qualité, on se rend compte que ça évolue très, très difficilement quand on regarde ce qui se passe dans les écoles. C'est le point de vue aussi proposé de Dido Moulongoy, qui aussi s'inquiète par rapport au lauréat. Il estime que pourquoi il n'y a que Kinshasa qui a des lauréats avec beaucoup de pourcentages à chaque édition de l'examen d'État. Merci aux uns aux autres. Nous allons directement rejoindre en ligne l'inspecteur Djamba, qui est notre invité dans cette émission, inspecteur de l'enseignement primaire secondaire et professionnel. Inspecteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, JF.
Alors, vous avez suivi les commentaires de nos auditeurs, mais bien avant de pouvoir placer les mots par rapport au point de vue des auditeurs autour de cette question, pourriez-vous nous brosser en quelques lignes l'historique de l'examen d'État dans notre pays? Parce que notre débat part, bien sûr, du cinquantenaire de l'examen d'État dans notre pays. En quelques lignes.
Ok. Bon, j'ai bien suivi avec vous les avis des uns des autres. Ces avis n'engagent que leurs auteurs, et je respecte beaucoup. Revenons au jubilé de 50 ans de l'examen d'État. L'examen d'État, c'est une épreuve certificative nationale externe, instituée par ordonnance présidentielle numéro 62-1250 du 5 juin 1967. Cette année, nous totalisons 50 ans d'examen d'État. C'est l'âge de la maturité. 50 ans, c'est beaucoup. Et l'examen d'État, c'est la plus ancienne des institutions qu'a connu notre pays. L'examen d'État a résisté contre vents et marées à toutes les menaces possibles. Et jamais on n'a connu une année blanche de 67 à ce jour. Nous pouvons dire que l'examen d'État, c'est la fierté et l'unité nationale. Et il est même envié, son organisation est enviée par certains pays africains que nous avons, représentants de certains pays africains que nous avons reçus chez nous, venir nous demander comment est-ce que nous parvenons à organiser l'examen d'État sur toute l'étendue de la République, 1793 centres pendant 4 jours et au même moment. Et nous corrigeons en un temps record. Autrefois, c'était 6 mois, 9 mois, parfois une année. Mais depuis 2007 à ce jour, nous avons des équipements informatisés modernes qui nous ont permis de réduire sensiblement le temps de correction. Nous étions à 1 mois, 3 semaines. L'année passée, nous étions à 18 jours. Cette année, nous sommes à 13 jours de temps de correction. Donc, c'est une fierté pour nous. Et l'examen d'État, je peux dire qu'il a connu des moments forts. Mm-hmm. Avant 1967, il y avait une disparité de titres. Chaque école, chaque réseau délivrait à ses récipiendaires un titre de sa couleur selon son bon vouloir. Et le gouvernement central procédait à l'homologation et qui, à un moment donné, ça devenait un casse-tête pour le gouvernement. On est arrivé à l'examen d'État de 1967, où on a instauré un seul examen d'État, tiré du même programme, et imposé à tous les candidats tiré du même programme, avec le même questionnaire. De 1967 à 1974, c'était des questions ouvertes, et la correction se faisait en province. Cela a montré des limites. Jusqu'en 1975, on est allé au système de QCM, questions chromatiques, avec un centre national de correction à Kinshasa, où les questions étaient corrigées manuellement. Et ça prenait beaucoup de temps de correction, ça drainait beaucoup de correcteurs, et c'était vraiment un casse-tête. Il a fallu qu'en 2007, par la volonté politique de son Excellence, M. le ministre Matière, qu'on puisse équiper les centres nationaux de correction d'ordinateurs et de scanners qui font la fierté du centre aujourd'hui. Et ici, on n'utilise pas des centaines de correcteurs. Il suffit d'une centaine de correcteurs pour arriver à traiter les 600 000 copies de candidats fois 4, ce qui fait dans les 2 400 000 copies en état record. Dernièrement, je vous ai dit que nous étions à un mois, 18 jours, aujourd'hui c'est 13 jours. Donc, l'examen d'État a connu des avancées significatives. Nous avons même modernisé notre travail et nous pouvons affirmer que l'examen d'État a mis fin au système d'homologation qui devenait aussi du temps irréaliste à cause de l'explosion démographique. Il a donné au diplôme d'État une valeur nationale et internationale. Et il a éveillé un sentiment d'unité et de cohésion nationale. Mmh. Pendant la guerre de 98, à Goma, les gens ont tenté de corriger, d'organiser leurs examens d'État, mais ils n'ont pas réussi. Toutes les copies ont été envoyées ici à Kinshasa, nous avons corrigé, nous avons publié. Donc nous pouvons dire que contre les vents et marées, l'examen d'État, c'est une institution forte que connaît notre...
Mais quand on regarde le point de vue des uns et des autres, en écoutant aussi les auditeurs, les gens estiment que la modernisation du système, que ce soit de l'examen qui est posé, la forme, le contenu, ainsi que toute cette modernisation de la correction et les pourcentages qui sont obtenus, il se pose un problème d'une inadéquation entre la valeur réelle des connaissances acquises par les élèves et le pourcentage réel qu'il présente aujourd'hui. Est-ce que vous avez cette impression, quand même, comme le disait Félicien tout à l'heure, qu'après 70, jusqu'à un certain moment, le diplôme avait la valeur par rapport au contenu, à la matière et même à la capacité de l'élève, et qu'aujourd'hui, la modernisation, beaucoup de pourcentages, il y a eu une adéquation entre la capacité de l'élève qui a ses diplômes ainsi que le contenu de matière et lui-même sa capacité de défendre ses diplômes.
Bon, le pays sort, nous venons de très loin, monsieur Gier. Nous venons de très loin, il y a eu des guerres d'agression, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché, mais à travers le temps, il y a eu des améliorations quand même. Des efforts sont fournis par le gouvernement de la République pour arriver à redresser le niveau et arriver à cette adéquation entre la formation et la qualité. Et pour votre information, le ministère a décrété depuis l'année passée le quinquennat de la qualité où tous les acteurs pédagogiques ont été appelés à fournir des efforts pour faire asseoir la qualité de l'enseignement dans nos écoles. Des efforts sont en train d'être fournis. Et d'ailleurs, fort de ces efforts, les hommes d'État qui n'étaient pas acceptés en Wallonie depuis, il a été homologué depuis l'année passée. Nos diplômes sont acceptés par la Belgique. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il y a des efforts qui sont fournis par le gouvernement de la République. Il faut quand même qu'on le reconnaisse. Qu'on ne ferme pas les yeux, les efforts sont en train d'être fournis. Nous venons de très loin de ce JR. Acceptons quand même qu'il y a des efforts qui sont fournis dans ce sens-là.
Et tout à l'heure, il y a un auditeur qui évoquait la question quand vous parlez, bien sûr, des efforts qui ont été fournis par rapport à la qualité. Il y a un auditeur tout à l'heure qui évoquait son inquiétude, c'est lui de Kamina, par rapport à la disparité aussi de pourcentage entre Kinshasa et les provinces. Il dit, mais pourquoi chaque fois c'est Kinshasa qui porte le nombre élevé de lauréats? Est-ce que c'est pour dire que le niveau de l'enseignement en province, il est quasiment différent de celui de Kinshasa, où il y a des écoles de meilleure qualité à Kinshasa qu'en province? Voilà un peu cette inquiétude.
Non, nous avons publié uniquement les résultats de Kinshasa, comme il n'en est pas encore publié. Et l'année passée, pour votre information, la province qui a été publiée la première à l'examen d'État, c'est la province du Haut-Katanga. Ce n'était pas Kinshasa.
Mm-hmm.
Donc il n'y a pas qu'à Kinshasa. Même le Haut-Katanga, l'année passée, c'était la province qui était placée en tête de toutes les provinces du point de vue performance à l'examen d'État. Donc, c'est nécessaire que je sorte un peu de son camino pour savoir que il y a des provinces qui nous donnent aussi des bons résultats, notamment la province du Nord Kivu. À deux reprises, disons, depuis 5 ans, nous organisons le concours national d'équité. Ce sont les élèves du Nord Kivu qui arrachent la panne. Même cette année, ils étaient ex-écoute, Kinshasa et Nord Kivu. Donc, ce n'est pas l'apanage seulement de Kinshasa, mais toute la République, toutes les écoles de la République concours de bonne place à l'examen d'État.
Avant d'écouter M. Adrien qui est à Kananga et Soumaïli qui est à Lubumbashi, il y a cette inquiétude de Kevin et de Mandaga. Lui, il estime que le système des choix multiples ne permet pas à l'élève de pouvoir assez réfléchir pour démontrer son schéma afin de donner une réponse. Avec les choix multiples, il peut tomber sur une réponse quand bien même il n'a pas eu le temps de pouvoir développer cela. Alors lui, il estime qu'il y a-t-il moyen de pouvoir adapter, hein, qu'il y ait un système qui permet quand même à l'élève de pouvoir réfléchir, parce qu'on ne sait pas avec le choix multiple comment se rendre compte que l'élève a assez réfléchi pour démontrer la réponse qu'il a accrochée sur son papier.
Bon, les questions à choix multiples que nous appelons communément QCM n'interviennent qu'à l'examen d'État. Mais l'école a aussi la possibilité d'évaluer les élèves en évaluation interne par des questions ouvertes. C'est aussi un moyen pour l'école de pouvoir évaluer et apprécier les apprenants. Donc il ne faut pas seulement voir l'examen d'État qui est une épreuve externe certificative. Il y a aussi l'évaluation interne, il y a l'évaluation formative. Et l'élève passe tout son temps dans son école pour subir toutes ces évaluations-là. Donc il ne faut pas dire que c'est seulement le QCM à l'examen d'État qui est un mauvais système. Mais on trouve quand même un palliatif au niveau des écoles à travers les évaluations formatives internes.
Voilà, nous avons M. Adrien qui est à Kananga Soumaïli à Lubumbashi. Je rappelle encore que 50 ans de l'examen du temps RTC, c'est les débats dans Parole aux auditeurs. Plusieurs personnes estiment qu'il faut encore aller plus loin dans la réforme pour pouvoir améliorer le secteur de l'enseignement. Quel est votre point de vue par rapport à ça? C'est le sujet au centre de notre échange dans cette émission que vous présente Yuri Lameji. Et nous avons comme invité l'inspecteur Djamba qui est avec nous en ligne, inspecteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. 081-890-5315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et l'ami.
Monsieur Adrien, vous êtes à Kananga, dans la province du Kassai central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot et la Mégie. Bonjour aussi à monsieur l'inspecteur Djamba.
Voilà, 50 ans après, alors on doit se focaliser sur quoi dans la réforme de l'enseignement, 50 ans après l'instauration de l'examen d'État?
Oui, merci de la question Pierrot. Je pense que la réforme s'impose sur tout le plan, en commençant par le plan personnel, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir, ou bien on ne peut pas prétendre avoir un enseignement de qualité lorsque les personnels, donc les enseignants, sont clochardisés, lorsque les enseignants ne sont pas traités à bon escient, lorsque les enseignants ont un salaire de misère, lorsque un enseignant n'est pas considéré comme une personne valeureuse. Et pourtant, il a fait les mêmes études que ceux-là qui sont dans des grands bureaux, ceux-là qui touchent des grands salaires. Donc là, c'est la première réforme sur le plan d'abord du personnel. Deuxièmement, sur le plan programme. Au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous avons un système un tout petit peu archaïque. Je prends l'exemple de notre ami qui a parlé de système de choix multiples. Ben, si vous circulez presque dans tous les pays du monde, vous allez vous rendre compte que c'est un système déjà banni parce que ce système-là entre en contradiction avec ce qui se prépare lorsque l'enfant va à l'université, il ne trouvera jamais ce système de choix multiples. Et puis, les choix multiples, vous allez voir que c'est un facteur chance. Quelqu'un peut ne pas avoir une réponse correcte, mais tellement qu'il s'est dit, je ne sais pas quoi faire, bon, je prends aussi la section A, par exemple, et il tombe sur la bonne réponse. C'est comme ça que, si on pouvait revoir, soumettre l'enfant à un raisonnement digne de son nom, parce que lorsqu'il sera à l'université, lorsqu'il sera dans la vie classique, il ne sera pas appelé à faire donc à raisonner dans des choix multiples. Il va pousser loin son raisonnement, peut-être pour trouver une solution dans la vie courante. Là, c'est le deux. Troisièmement, c'est bien, il faut aussi commencer par saluer l'effort fourni par notre gouvernement, surtout avec l'arrivée de son Excellence Makaire Mwangu. Il a fait changer beaucoup de choses, mais ce n'est pas encore suffisant, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez certaines écoles de la province du Kasaï central, ce sont des écoles qui sont les enfants qui étudient dans des conditions misérables. Donc, toute personne placée sous ces conditions, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut devenir une personne intéressante, parce qu'il ne faut pas que nos amis oublient que l'environnement dans lequel on évolue a aussi un impact sur l'avenir de l'enfant. Si l'enfant est toujours étudié à même les sols comme nous le voyons ici, plus grave même dans certaines écoles du centre-ville de Kananga. Et donc vous allez là, vous voyez les enfants à même les sols, il n'y a pas de toiture. Dès qu'il y a un mouvement de pluie, les enfants sont appelés de rentrer. Et c'est là que le gouvernement doit aussi insister. On ne refuse pas, l'effort est considérable, mais il faut aller encore plus loin. C'est comme ça que moi je suis d'accord avec ce genre de raisonnement. Donc aujourd'hui, le gouvernement ne devrait pas faire comme il l'a fait dans des années passées. Donc se lancer dans des programmes avec les mains. Il faut se mettre autour d'une table, chercher qu'est-ce qui est la priorité pour que le gouvernement puisse d'abord tabler sur cette priorité. Sinon, tel que le gouvernement est en train de le faire, il ne fera presque rien, il sera toujours bité à des difficultés, et donc avec ça, ça ne sera pas bon pour la réforme de notre enseignement.
Merci maître. Et vous estimez que la priorité aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de travail des enseignants, mais par rapport à l'examen d'État, notre invité venait de dire, l'inspecteur Diamba venait de dire que l'enfant, dans tout son cursus, il est soumis à cet examen, comme on le dit, le terme traditionnel, réfléchir, il doit réfléchir, il doit coucher des réponses, et que à la session de l'examen d'État, où il doit passer au système des choix multiples, mais ce n'est pas le système qui émaille tout le cursus de l'enfant dans la formation. Mais pour vous, vous estimez qu'on pouvait continuer avec le même système pour permettre à l'enfant de pouvoir réfléchir, ça lui prépare ainsi aussi au système de l'évaluation au niveau de l'université. Merci beaucoup, maître Adrien Smaïli. Vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bonjour, Smaïli.
Merci, bonjour, monsieur Gilles.
On vous écoute.
Oui, moi, j'apprécie d'abord l'intervention de notre invité qui nous a présenté l'historique des examens d'État. Vraiment, je suis pour que cela puisse faire de ce que lui a préconisé. Mais mon problème, c'est à quel niveau? Moi, je trouve que l'examen d'État, c'est un modèle vraiment digne pour les Congolais. Et les questionnements là, la façon dont on pose les questions, les choix multiples, c'est un modèle qui mérite avec le temps, parce que à ce moment-ci, nous avons la question de gain de temps et gain d'espace. Les dames là qui évoquent le système traditionnel là, il faut voir, pour résoudre un exercice, vous avez combien de temps, par exemple en mathématiques, et combien d'espace. Donc, les dames là ne va plus prendre 4 jours. Nous irons au-delà de 10 jours même, s'il est question de faire ça. Et quelqu'un pourra faire toute une journée comme ça, terminer l'examen de mathématiques, faire la demande de réception. On va au moins. Alors, il y a de ces modèles-là que les gens enseignent même à l'école, que vous pouvez tomber juste à l'exercice, juste à la réponse plutôt. Et puis, je vais encore dire, les problèmes qui se trouvent dans l'enseignement pour le moment, ce n'est pas un,
ce n'est pas les pauvres clients qui sont en train de soulever là. Moi, je vois que c'est un problème économique. Dans quel sens? On a privatisé le secteur enseignement. Ici, aujourd'hui, nous voyons des écoles qui poussent comme des champignons, où on ne veut pas qu'un élève puisse échouer. Lors de la délibération, vous verrez un promoteur avec le professeur qui se change de coup. Pourquoi? Parce que les professeurs veulent accepter les élèves échouent, mais les promoteurs disent que non, toi, tu es un mauvais élément du marketing de mon école. Parce que quand les gens vont échouer, ils ne vont pas venir ici beaucoup. Or, moi, j'ai besoin de leur nombre pour que je puisse amasser beaucoup d'argent. Au moins. Ça, c'est un problème économique que moi, j'ai vu. Parce qu'à notre temps, quand nous avions des écoles conventionnées catholiques et protestantes, il y avait un ordre. Et là, un élève n'avait pas une tête dure. Vous nous dites, non, c'est ça l'enseignement. Et nous retournions à la maison. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore étudié, ce que vous avez appris à l'école, vous n'aurez pas droit à la mendication. Voilà au moins. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'élève peut se déambuler d'importe quelle façon, parce que c'est que non, je partirai là-bas, comme j'étais le Minerval, à la fin de l'année, je suis censé de pouvoir passer la promotion. Quel que soit le pourcentage que j'aurai, parce que le promotionnaire, c'est notre défenseur. Voilà au moins. Le premier des problèmes. Mmh. Mais c'est pour maintenant, vous avez le gouvernement d'État. Oui?
Allez-y.
Le deuxième problème au niveau des examens d'État, il y a de ces délégués-là qu'on envoie, qui sont pauvres. Quand on leur donne quoi les examens, ils trouvent des moyens pour se faire des maisons, de passer la quine. Quand ils arrivent dans un centre comme ça, ils sont en train de monnayer l'examen d'État. Il y a des gens qui travaillent ça pendant la nuit, et puis on essaie de dispatcher ça selon les écoles. Donc, ils viennent comme ça. Il y a des contributions d'école qu'on prépare déjà à l'inspecteur qui vient avec les amis d'État. Lui, voilà, quand même, cet agent-là. Ils n'ont pas le droit.
S'il y a des cas comme ça que vous avez déjà vécu à Lubumbashi, autant m'y dénoncer. Il y a plus des cas où vous avez vu quand même des inspecteurs monnayer l'examen d'État, et ces cas ont été laissés apporter à la connaissance de l'autorité provinciale de la police pour dénoncer quand même.
Au Congo, s'il y a des justices, ce sont des choses qui se disent. Et même ces gens-là savent. Le jour, je vous donne un exemple. Le jour qu'on a examen d'État, prenez seulement le gars de Vodacom, ça c'est des réseaux téléphoniques. Ils vont vous dire comment est-ce que le message circule sur le téléphone. Des examens d'État, des réponses, des tests là. Donc, les examens d'État, déjà travaillés, des séries. On vous donne avec des précisions. L'élève entre dans la salle, il retrouve. Noir sur blanc, donc in extenso dessine le poisson qu'il a sur le papier. Et donc, il n'a qu'à remplir. Et vous verrez quelqu'un qui fait des pourcentages qui ne mérite pas.
Alors voilà, merci. Soumaïl, vous avez estimé que selon l'historique, selon le temps, le nombre des candidats, il faut garder le système, le mode actuel des choix multiples, c'est important. Sinon, on pourra encore retomber dans plusieurs de mois qu'il fallait attendre les résultats. Mais pour vous, vous estimez que le problème, c'est pas tout ce qui se raconte, mais le problème, c'est plutôt d'abord économique. Le secteur de l'enseignement, depuis la libéralisation, il est devenu aujourd'hui un secteur de business, de marketing. Alors, ce qui fait que dans beaucoup d'écoles, on est estime qu'il faut faire passer les enfants, il faut accorder la réussite pour que l'école puisse avoir les succès et puis puisse aussi avoir beaucoup de candidats. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait travailler. Et vous avez aussi estimé qu'il faut qu'il y ait un contrôle suffisant pour ces cas de pratiques, d'émoignage et de corruption et de tricherie. Merci beaucoup, Soumaïli. Simon, vous êtes à Matadi et Clément dans la même ville. Nous allons rester avec vous dans les Congo central. Simon, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, et je suis très content que vous ayez choisi le sujet parce que il y a quand même des choses importantes qu'on pouvait dire à partir de la radio Okapi, les autorités qui notent, ils pouvaient en faire un moyen pour essayer de revoir. Parce que l'examen d'État depuis lors, nous pensons que il y a ce qu'on appelle la routine maintenant. Parce que avec le système de composition de l'examen d'État, ça fait promouvoir aussi l'effet d'hasard. Donc, parce que comment nous vivons des résultats aujourd'hui, ce qu'on appelle les pyramides renversées. C'est-à-dire, un enfant qui n'avait jamais réussi de la première période jusqu'à la fin de l'année pour la même matière, mais vous verrez aux examens d'État, il réussit avec plus de 70%. Pour la même matière à l'école, il a échoué sur toute la ligne. je crois que si on peut revenir, voir comment, ce que ça peut coûter, je crois que ça peut être une réforme de revenir au système de type traditionnel. Je crois avec ce format-là, il y a moyen encore d'éviter un peu la routine et puis essayer un peu de palper certaines réalités de réussite. Et nous déplorons, par exemple dans ma province, le Congo central utilise 38 319 enseignants, dont 9 000 ont déjà atteint plus de 50 ans de service. Alors, de ces 39 000, il y a 18 662 enseignants qui sont au secondaire. Mais sur les 18 662, il y a 1003 licenciés, 2666 gradués. Ce qui fait 3669 qualifiés contre 15 000 sous-qualifiés. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque de motivation. Motivation, pas seulement en termes d'argent. Aujourd'hui, par exemple, motivation sur ce qui représente les formateurs. Aujourd'hui, par exemple, il y a tous ces papas-là qui ont dépassé 50 ans de service. Ils ont vieilli, ils sont atteints à la maladie de la vieillesse, qui ne sont incapables d'enseigner aujourd'hui. Ils ne voient pas bien. Ils préparent des leçons avec des lampes à pétrole. Ces papas-là sont malades. Maintenant, aujourd'hui, le CECOP vient avec la réforme, disant que tous ces papas-là qui ont presté plus des années et qui sont invalides sont radiés, même sur la liste des payes. C'est l'opération maintenant qu'on est en train de passer. Alors, les jeunes gens qui sont, parce que le Congo central a l'Institut supérieur pédagogique le plus performant de la République. Et tous ces jeunes qui finissent là-bas refusent de venir enseigner parce qu'ils voient ce qu'ils leur ont enseigné, ce qu'ils sont devenus. Voilà comment on les remercie. Si du moins, on pouvait commencer peut-être à retraiter tous ces papas, au lieu de les chasser de cette manière, je crois que ça ne serait pas bien. Ça démotive les enseignants ou les gens qui ont des profils à partir de l'Institut supérieur pédagogique de Bandungu d'enseigner, qui peuvent le faire. Mais ils vont dans des stations, dans des sociétés pétrolières, à l'OCC, à cause de cela. Moi, je fais la qualité aussi. Nous devons savoir que la qualité qui est prônée, l'administration Makere Mwangu fait tout, met des livres ainsi de suite. Mais la création ou la promotion de la qualité passe par les créateurs de la qualité. Si le créateur de la qualité, qui est enseignant, n'est pas mis dans des conditions à créer la qualité, il n'en créera pas. Et comme l'examen d'État s'est fait au champ multiple, l'hasard peut faire qu'un enfant ne puisse pas refléter ce qu'il est réellement et réussir. Donc, il y a beaucoup de choses
qu'il faut savoir. Qu'il faut revoir. Merci beaucoup, Simon. On revient à vous, inspecteur Diamba. Vous êtes notre invité dans ces magazines. Vous avez suivi les uns et les autres par rapport à la qualité, les enseignants eux-mêmes qui doivent être assez formés. Beaucoup de points de vue ont été développés dans cette émission. Quelle est votre réaction, inspecteur Diamba, avant qu'on écoute Clément qui est aussi à Matadi?
Merci beaucoup, JL. Je retiens surtout le tableau de M. Adrien de Kananga. Il fait un tableau sombre de l'enseignant, un homme fauchardisé, un homme de misère, un homme sans valeur, ayant quand même de la considération envers nos enseignants. Ce ne sont pas des clochards, ce ne sont pas des misérables, ce sont quand même des gens de valeur que nous devons respecter, non pas les déshabiller sur la place publique comme ça, ce n'est pas gentil de sa part. Le programme archaïque, le programme c'est l'émanation de la politique d'un pays. On ne peut pas dire que les programmes de notre pays sont archaïques. Chaque pays a la politique d'enseignement. On ne peut pas faire ce genre d'affirmation. Il a aussi parlé de questions qui sont, heureusement que vous avez rectifié le tir, des questions à choix multiples, ça n'intervient qu'à la fin de l'année, au niveau de l'examen d'État. Il y a l'évaluation que j'ai appelée l'évaluation formative, les interrogations et les examens semestriels qui se font en question ouverte, là où l'élève a la possibilité de s'exprimer, d'écrire comme il se doit, et l'enseignant est là pour corriger toutes les failles commises par l'élève. Donc, les choix multiples, on ne peut pas s'en passer au vu du nombre de candidats. Cette année, par exemple, nous avons 624 000 candidats, 624 000 92 candidats. Quand vous multipliez par 4, ça fait 2 498 000 copies à corriger. Et si ça doit se faire manuellement, nous risquons de recruter tous les spécialistes de géographie, tous les spécialistes de mathématiques, et ça posera des problèmes de leur déplacement, leur hébergement. Et ça va engager des fonds énormes. Tandis que le QCM, ça, n'importe qui peut corriger. Les machines sont là pour corriger à la place des hommes. Donc le QCM reste la voie incontournable. M. Simon a parlé de ce qui se passe dans sa province avec des enseignants âgés. Ça, c'est une situation générale. Il n'y a pas que dans l'enseignement où on trouve des fonctionnaires âgés. Il y en a dans tous les ministères, à la santé, partout. Le ministère de la fonction publique s'attelle à mettre tous ces gens à la retraite de manière honorable. Nous attendons. Ça n'a pas de lien avec l'examen d'État. Parlons examen d'État 50e anniversaire. Merci beaucoup.
Alors, cette question, non, s'il a évoqué que les enseignants ont atteint l'âge de la retraite, c'est pour parler de la qualité, en estimant que si déjà les enseignants ont atteint l'âge de la retraite, il a parlé de 3000 seulement qui sont qualifiés, et cela a de l'impact sur le contenu et l'enseignement, et par ricochet, l'impact aussi sur la prestation de l'élève à l'examen d'État.
Oui, la formation, nous avons dans chaque école les chefs d'établissement, celui des chefs de l'unité pédagogique de son établissement. Nous avons ce que nous appelons des cellules de base au niveau de chaque école. Les enseignants d'une même discipline se retrouvent ensemble pour échanger, corriger ce qu'il y a à corriger. Et ils sont contrôlés par le chef d'établissement qui est le chef de la cellule de base. Et au niveau de la province, nous avons une inspection principale provinciale avec un inspecteur principal provincial. Il a ses agents chargés de la formation qui soumettent régulièrement nos enseignants à des séances de remise à niveau. Ça se fait régulièrement. Il n'a qu'à passer au niveau de l'inspection principale provinciale. Il verra tous ces rapports de formation. Nous recyclons de temps en temps nos enseignants.
Je rappelle que nous
sommes dans la pédagogie moderne avec la poste par compétences. Nous avons des modules de formation pour relever les niveaux
des enseignants. Et d'ailleurs, Simon lui-même, c'est un enseignant, il est syndicaliste, je crois bien, à Matadi. On va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission rapidement, chacun une minute pour conclure ces débats et revenir à vous pour un mot de conclusion. Justin, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Et en une minute, votre point de vue, parce que là, on doit vraiment terminer l'émission.
Voilà, je voulais tout simplement ajouter un élément par rapport à la réforme. Mes prédécesseurs ont presque passé en revue tous les éléments que je pouvais parler. Néanmoins, je voulais intervenir par rapport aux fiches de performance qui sont envoyé à chaque institution après la proclamation des examens d'État. Je voulais demander si on pouvait encore aller plus loin pour mentionner le pourcentage de réussite de chaque jour selon les branches et non pas selon les jours. Parce que vous vous rendrez compte que pour aider aux professeurs d'améliorer davantage, on pouvait au moins placer le pourcentage selon les cours et non pas selon les jours. Cela pouvait faciliter la tâche aux chefs d'établissement de voir là où ils n'ont pas bien travaillé pour améliorer davantage. Cela a été ma contribution.
Merci beaucoup, Justin. Ça, c'est par rapport au fiches de performance envoyées après les résultats de l'examen d'État. L'inspecteur pourra placer un mot là-dessus. Pacifique, on est avec vous aussi en 50 secondes de votre intervention autour de cette question, Pacifique. Pacifique, vous êtes avec
nous. Oui, bonjour Pierrot.
Bonjour.
Et à tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont dit, j'accepte tout cela. Je suis tout à fait d'accord avec. Je trouve qu'il n'y a pas d'évolution dans les secteurs de l'enseignement aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pourquoi, Pierrot et la Mégie, vous devez comprendre certaines choses. C'est vrai, nous reconnaissons que la corruption a pris beaucoup de temps à son temps. Et aujourd'hui, on a fourni un effort pour que la correction se fasse dans un temps record. D'accord. En dehors de tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous voyons dans l'enseignement les inspecteurs, parce que l'inspecteur qui est notre invité, si lui n'a pas d'école, ça m'étonnerait. Aujourd'hui, la plupart des inspecteurs ont des écoles, et ces écoles-là, on leur donne la motivation pour dire, donc, écoutez, et si vous venez vous faire inscrire ici, vous aurez à satisfaire pendant les examens d'État. Ce sont des écoles parfois qui vous font 100%. Alors dites-moi, c'est une raison pour laquelle aujourd'hui les gens préfèrent aller dans les écoles privées. Pourquoi pas? Parce qu'on sait que ce sont des affaires aujourd'hui dans les écoles à l'aide. C'est une très bonne affaire parce que les inspecteurs se retrouvent et les promoteurs aussi se retrouvent. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour l'innovation?
Le ministre de l'affaire business. Oui, Pacifique, merci beaucoup. Parce que là, on n'a qu'une minute pour permettre à notre invité de conclure ces débats. Et vous avez évoqué l'aspect business et marketing, hein, en indiquant que la plupart d'inspecteurs aujourd'hui ont leurs écoles, et comme ça, les gens se ruent vers ces écoles parce qu'ils sont sûrs d'avoir, d'aller réussir. Inspecteur Diamba, on revient à vous. En une minute, on a suivi les uns et les autres. Quel est votre mot de conclusion de ce magazine?
Bon, j'interviens rapidement par rapport à la fiche de performance. Cette fiche de performance, ce n'est pas par journée seulement. On sait que par journée, il y a la première journée, c'est la culture générale. Quand on parle de la culture générale, on voit l'histoire, la géographie et le civisme. La deuxième journée, ce sont les branches d'options spécifiques à chaque option.
Uh-huh.
Et la troisième journée, ce sont les langues. On sait, par langue, on entend anglais, français. Donc, s'il y a à analyser, on voit par rapport à l'anglais et au français. Et à la quatrième journée, ce sont les sciences, mathématiques et physiques. Donc, c'est assez clair. Monsieur de Lubumbashi n'a qu'à voir son inspecteur constat provincial pour avoir les détails sur la condition de ces journées-là. Bon, moi, de la fin, je peux dire que l'examen d'État, dans sa forme actuelle, reste une voie incontournable. Donc, on ne peut plus revenir aux choix multiples. On ne peut plus revenir au système traditionnel. Nous restons dans les choix multiples compte tenu du nombre de candidats. Parce qu'avec 624 000 candidats, on ne peut pas
fonctionner
manuellement.
Mmh.
Okay.
Merci beaucoup, inspecteur Diamba, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux, mais les débats continuent aussi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Merci à toute l'équipe de production des Paroles aux Auditeurs. À Sylvain Massondou était à la mise en onde, et Jérôme Ngembo à la réalisation et coordination. Et puis, Romain Lamé, je vous a présenté ces magazines sous la supervision de Martin Seboujang des Paroles aux Auditeurs. Mais aussi sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 20h RD Kinshasa, en FM, bien sûr. On se retrouve demain pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Portez-vous bien chez vous et surtout bonne journée en compagnie de Radio Capi. Au revoir.